France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Help.
Help qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Vous avez accepté le défi d'être sur scène avec moi pour apprendre en texte par cœur.
Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de tous vos pleurs les jours tout recueillis. Des larmes oublient mon œil alors se noient pour les amis scellés dans la nuit de la mort. Couvre le deuil de l'amour morte et sépare-toi au réveil sépulcral des intimes remords.
Will my dear tame waste. Then can I draw an eye unused to flow. For precious friend hid in death, deathless night, and weep afresh love's long since cancelled woe.
En sonnet de Shakespeare sur la mémoire. And mourn the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances forgone, and heavily, from woe to woe, tell over the sad account the four bemoaned moan which I knew pay, as if not paid before. Mais alors, si mon âme, ami, vers toi se lève, tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève. Le sonnet 30, c'était le numéro que Pasternak a dit sur la scène. 30. Le sonnet 30 de William Shakespeare.
Mais alors, si mon âme, ami, vers toi se lève, tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Toc Toc, votre émission jusqu'à 18h sur RCFM, où j'ai l'immense bonheur de recevoir Thiago Rodriguez, auteur, acteur, metteur en scène, aujourd'hui directeur du Théâtre National de Lisbonne, et surtout aujourd'hui, tout à l'heure, sur la scène de la Fabrique de Théâtre pour By Heart. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous a entendu un petit peu dans cet indicatif, notamment avec quelques bribes de ce sonnet numéro 30 de Shakespeare. Qui est presque le démarrage de toute l'histoire de By Heart. Racontez-nous comment vous avez eu envie d'extraire ce sonnet et comment vous avez pris connaissance de ce sonnet.
Le point de départ de cette pièce, By Heart, par cœur en français, qui s'appelle By Heart parce que je cite souvent le professeur de littérature George Steiner. Alors le titre en anglais vient de ça, même si je suis en portugais à Bastia qui va jouer en français. Le point de départ, je disais, c'était ma grand-mère. À un moment donné, ma grand-mère a 93 ans, une femme qui a toujours aimé la littérature, même s'il avait une éducation très simple. C'était une cuisinière d'un petit village dans les montagnes du nord du Portugal. Elle aimait beaucoup la littérature. Elle m'a transmis cet amour à moi et à toute la famille, cet amour de la littérature. Et un jour, elle a reçu la nouvelle qu'elle allait devenir aveugle. Elle avait quelques mois de lecture encore. Et elle a décidé de utiliser ces derniers mois de lecture, de vue, de temps de vue, pour apprendre un livre par cœur qu'elle pourrait lire après, mentalement, quand elle serait aveugle. Et elle m'a demandé de choisir ce livre-là. Elle m'a demandé de choisir son dernier livre. Et c'était cette mission que j'ai vécue, qu'après a donné sens à cette partage qui est By Heart, le partage de cette histoire, de rechercher un livre qui sera le dernier livre de quelqu'un, en plus de ma grand-mère que j'aimais beaucoup.
Alors ça, c'est une très belle histoire, l'histoire du petit-fils et de sa grand-mère Candide. Mais il y a aussi l'histoire du sonnet que vous nous raconterez un petit peu plus tard. Et comme c'est un sonnet sur la mémoire, je me suis creusé la tête en me disant comment je pourrais lui faire plaisir avec une musique. Alors je suis absolument folle amoureuse d'Antonio Zambucci, qui est venu l'année dernière aux Rencontres Polyphoniques de Calvi.
Mais génial.
Le voici ici chantant en français la chanson de Prévert.
Ah.
Je voudrais tant que tout se vienne. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et papa, je me diffère, à cela il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vient l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
La chanson de Prévert dans Toc Toc et sur RCFM avec l'interprète Antonio Zambouge. Notre invité Thiago Rodriguez, vous serez sur la scène de la Fabrique de Théâtre ce soir et demain à 21h. Cela fait 3 ans que François Bergoin vous drague littéralement par mail pour que vous puissiez venir, puisque cette pièce, vous l'avez jouée je crois 230 fois.
À peu près, ouais.
Un peu partout dans le monde.
Ouais.
Comment c'est devenu un objet théâtral, cette histoire avec votre grand-mère ?
Quand j'avais choisi ce livre pour ma grand-mère, qui finalement était les sonnets de Shakespeare.
Mais ça a été un casse-tête pas possible. Il a fallu revoir toute la bibliothèque.
Et en même temps, j'étais pressé par le temps.
Ah oui.
Alors, il me faudrait surtout rechercher dans ma mémoire, parce que j'avais pas le temps de rechercher en lisant tout ce qu'il faudrait lire pour choisir un livre aussi important dans nos biographies, la mienne et celle de ma grand-mère. Alors, je me suis immédiatement rappelé d'une histoire racontée par George Steiner, une histoire de Pasternak, qu'à un moment donné, en 1937, en Russie, dans un congrès, sur la menace d'être emprisonné s'il critiquait le régime.
Ses proches lui disent surtout ne prends pas la parole, c'est une mauvaise idée.
Oui, ils le disent, il faut pas parler, sinon tu iras en prison. Mais après quelques jours de congrès, ils lui disent tu iras en prison tout de même, alors parle. Dis quelque chose, parce que tu iras en prison comme ça.
Quoi qu'il arrive.
Tu nous laisses quelque chose. Et il monte sur scène et il dit 30. Et il y a 2000 personnes dans la salle qui se lèvent et qui commencent à réciter le sonnet 30 de William Shakespeare par cœur, qu'il avait traduit, Boris Pasternak, en russe. Et voilà, et c'était comme un témoin de la puissance de la littérature, que tout le monde le savait par cœur, et aussi que même si toutes les traductions de Pasternak, de Shakespeare, tous les livres de Pasternak original, etc., seraient confisqués, il y aurait au moins 2000 personnes qui savaient ce poème par cœur, alors rien ne pouvait toucher à ce que Pasternak avait déjà offert aux gens, cette traduction de ces mots de Shakespeare. Et finalement, il n'était pas emprisonné parce qu'il n'y avait pas de crime, quoi. Il avait dit 30 et c'est tout. Et c'était la masse qui a dit quand je fais comparoir les images. Mais en russe, « Когда насут безмолв, нихтай, нихдум, я вызываю голоса Белова ». Voilà, c'est très beau aussi en russe.
Et paraît-il, c'est tout aussi magique qu'en anglais. C'est ce que vous dites en tous les cas, Thiago Rodriguez. Et vous êtes un homme de mémoire. Et vous avez une mémoire assez incroyable. Alors c'est sûr, on peut dire vous êtes acteur. Alors oui, vous retenez tout. Mais qu'a-t-il dit George Steiner à propos de cet épisode ? Ça vous le savez, ça voulait tout dire. Il disait, ça voulait dire, vous ne pouvez pas.
détruire la langue russe, vous ne pouvez pas détruire Shakespeare, vous ne pouvez pas détruire ce que Pasternak nous a donné. Et Pasternak ne fut pas arrêté. Voilà.
Tout l'intérêt d'apprendre par cœur ou de savoir par cœur des textes. Malheureusement, aujourd'hui, en 2019, c'est de plus en plus rare. On s'est intéressé à cette expression avec Michael Andréani. Bonsoir, Michael.
Bonsoir, Marie. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Qu'avez-vous trouvé ?
Alors moi, je retiens dans ma tête cette expression quand j'étais gosse. Contrôle surprise, les enfants. J'espère que vous avez bien appris votre leçon d'hier par cœur. Alors, quel élève, peu sérieux ou pas du tout, n'a jamais tremblé en entendant ces mots le mardi matin à 8h37, à peine réveillé et avec du jus d'orange et un Kinder Pingui dans le ventre. Bonjour, bonjour l'angoisse. Mais attardons-nous donc justement sur ces derniers mots de notre chère maîtresse, apprendre par cœur. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine de cette expression ? Pourquoi apprendre par cœur alors que c'est dans nos têtes que se logent nos souvenirs ? Pourquoi alors ne pas apprendre par cerveau ? On se le demande. Alors, il semblerait en fait que cette expression apparue au Moyen-Âge tire son origine d'une croyance de la Grèce antique. Les médecins d'alors considéraient en effet le cœur comme étant le centre de la conscience humaine, ou comme le disait Aristote, le siège de l'intelligence. C'est donc lui qui renfermait le courage ainsi que la mémoire. Et en dépit des progrès de la médecine, l'organe est resté longtemps associé à l'esprit. D'ailleurs, au Moyen-Âge, toujours faire quelque chose par cœur signifiait réaliser par la pensée, tandis que dîner par cœur voulait dire se passer de manger ou n'avoir pas de quoi manger, tout simplement. Et c'est finalement Rabelais qui popularisera la formule savoir par cœur dans Pantagruel, tandis qu'il faudra attendre le 19e siècle pour que l'homme commence à découvrir les secrets du cerveau et ses rapports avec le comportement et la mémoire. Et je conclurai, Marie et chers invités chroniqueurs, par cette note amusante. Si on dit effectivement en anglais by heart aussi, la langue corse, elle, se distingue par une jolie subtilité, puisqu'on dit « ampara a mente a solizione », a mente, c'est donc l'esprit.
Mais pourtant, nous ne manquons pas de cœur, cher Michael Andréani.
Ça jamais.
Sur cette île. C'est aussi l'histoire de Nadeja Mandelstam, qui réunit dans sa cuisine 10 personnes pour apprendre par cœur les poèmes de son mari.
Oui, c'est ça. C'est voilà, contre l'angoisse de l'apprentissage par cœur, juste avec voilà un petit chocolat Kinder Surprise au stomac. Contre ça, il y a une autre sorte d'apprentissage par cœur qui n'est pas celle qui est obligatoire, mais celle qui est désirée par l'urgence de la résistance. Nadejda Mandelstam, quand son mari, le grand poète russe Ossip Mandelstam, était emprisonné, torturé, quand il est mort à Vladivostok, elle a décidé, parce que tous les livres de Ossip Mandelstam étaient confisqués et détruits, elle a décidé, parce qu'elle savait par cœur, de faire apprendre un poème d'Ossip Mandelstam à 10 personnes chaque fois dans sa cuisine. Des amis, des invités, des inconnus qui frappaient à la porte. Et chaque jour, 10 personnes apprenaient un poème différent. Ça veut dire qu'à la fin de 60 poèmes, c'est 600 personnes qui les savaient par cœur. Et c'était une façon de sauver ces poèmes-là. Et on sait aujourd'hui que si on connaît encore et plein des poèmes de Ossip Mandelstam qui sont aujourd'hui publiés et publics en plusieurs langues, mais si on le connaît encore, c'est parce que quelques de ces poèmes qui avaient complètement disparu étaient sauvés par la mémoire de ces gens-là. Alors, on dirait, ouais, c'est quand même un geste infime, mais c'est un geste glorieux, incroyable, comme réponse à l'impuissance face au totalitarisme. Et pas seulement les totalitarismes politiques, dans régime politique, il faut en penser au totalitarisme aujourd'hui en Europe, mais aussi le totalitarisme de la vie. C'est le cas de ma grand-mère, le totalitarisme biologique, vieillir, la cécité, la mort. Et voilà, cette idée d'apprendre par cœur, bien sûr qu'elle est attachée à l'obligation scolaire, mais comme toutes les grandes obligations, elle est aussi attachée à un plaisir original. La chanson que Joseph Brodsky, un grand écrivain, il disait que peut-être les derniers mots qui sortiront de nos bouches au moment de la mort seront le petit poème qu'on a appris à 5, 6, 7 ans. Et là, ça, ceux d'entre nous qui ont déjà malheureusement accompagné des gens qui ont vieilli, etc., on sait comment cette petite chanson de l'enfance peut sauver un jour, peut sauver une semaine, peut récupérer la joie d'un regard.
C'est l'histoire aussi de ce bibliothécaire au camp de Birkenau qui apprend des livres par cœur pour les restituer et les raconter à ses congénères déportés dans la misère absolue culturelle et toute la misère et la peur de la mort imminente.
Oui, entre le XXe siècle, qui est plutôt le siècle d'apprendre par cœur et pas le siècle de l'archive digitale, et aussi le siècle des régimes totalitaires, des camps de concentration, des génocides. Alors là, c'était aussi question de pas seulement sauver l'information, c'est aussi de sauver l'humanité qu'il y a dans la création artistique, dans le pouvoir des mots. Et alors, on le découvre avec la littérature, la musique, le théâtre, qui étaient gardés dans les gens. Les idées qu'on a, nos pensées, elles peuvent pas être volées. Et on dirait aujourd'hui, bien sûr, toutes les idées, on trafique des idées aussi facilement. Tout est contaminé. On a une telle mobilité dans le monde. Moi, là, je suis à Bastia et je vous parle. Mais c'est quand même un héritage très très fort du XXe siècle, cette idée qu'il y a quand même des choses que s'ils nous volent tout, s'ils nous enlèvent tout ce qu'on a pour s'affirmer, on a encore ce qui est en nous. Et je pense que là, l'apprentissage par cœur, c'est pas un programme politique, c'est même pas une philosophie de vie, c'est plutôt un bateau, un rafio pendant la tempête. On peut s'accrocher à ça, à ce qu'on garde encore. Et je le trouve très beau et ça sera une merveille de essayer de partager ces histoires, quelques que j'ai racontées en résumé ici et plein d'autres qui existent dans ce spectacle et de partager mon expérience avec ce poème et de le faire apprendre aux gens qui acceptent de monter sur scène après, comme vous disiez, 3 ans d'insistance, de tendre mais déterminée insistance de François et des gens du théâtre qui chaque mois, chaque 2 mois, envoyaient un petit mail, une petite lettre en disant « Bastia vous attend encore ». Et on savait que c'est une des invitations les plus anciennes qu'on avait, et on cherchait à trouver des dates pour venir finalement. En plus, moi, j'étais nourri par l'imaginaire de venir découvrir Bastia, la Corse, etc. On avait beaucoup d'envie. Chaque fois, on réussit pas. Hein, et 3 ans après, et 200 présentations après, 20 pays après, finalement, on est arrivé. Et depuis qu'on est là, on est arrivé hier après-midi. On se dit, c'est bien que François et tout le monde du théâtre a insisté tellement. C'est bien parce qu'on sent qu'on arrive chez nous, quoi, aussi. On est chez nous.
Ouais, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation de François Bergoin et de la Fabrique du Théâtre, parce qu'on a tous besoin de ce rafio, et on a tous besoin de vous entendre sur scène. Lorsqu'il monte sur scène, puisque vous l'avez dit, on ne dévoile rien, 230 représentations dans le monde entier, ces gens que vous choisissez dans le public...
Je ne les choisis pas.
C'est les choisissent gens qui... de venir, pardon.
Oui, oui, c'est très
raison,
important.
C'est très important.
Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'on n'est pas à l'école, justement, Michael.
Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est la grosse différence entre l'école, viens ici, voilà, maintenant, et ce genre de théâtre interactif qui nous menace et
vous
duquel je suis
ça,
complètement allergique à ça. Et c'était le seul spectacle de ma vie que j'ai fait où il y a du public sur scène, mais c'est 10 personnes du public qui choisissent au début, alors pas de spoiler, ils choisissent au début de monter sur scène pour apprendre un texte par cœur.
Lorsqu'il monte sur scène, à cette époque de l'archive digitale que vous évoquiez tout à l'heure, où l'on fait comme ça automatiquement, sans même s'en rendre compte, des purges de mémoire, et où on ne retient quasiment plus rien, comment se comporte-t-il ? Est-ce qu'ils comprennent au début de la pièce la nécessité d'apprendre ce sonnet ou pas ? Ou est-ce qu'ils sont comme dans un jeu ?
C'est très divers. Ça dépend des gens. Mais ce qui est clair, ce qui se répète beaucoup, c'est que au début, c'est 10 individus avec des raisons différentes pour monter sur scène. Peut-être pour se montrer, peut-être pour comme un geste de courage, je vais l'essayer une fois de ma vie, parce qu'il veut vraiment apprendre en texte, par le défi, pour aider, pour soutenir l'artiste. Il y a plein de raisons. Et au fur et à mesure, ils commencent à comprendre que la raison d'être de leur présence et de l'apprentissage par cœur est liée à quelque chose de plus profond, à quelque chose qui est un fil invisible, qui lie, par exemple, Boris Pasternak, prix Nobel de la littérature, et ma grand-mère, cuisinière dans mon petit village, cette puissance très démocratique des mots et de la littérature qui peut nous toucher à tous. Et au fur et à mesure de la pièce, ils se rendent compte d'une responsabilité collective, et on peut dire que dans toutes les versions plus joyeuses, plus sérieuses de cette pièce, parce qu'elle change beaucoup avec la présence, pas seulement des 10 spectateurs sur scène, mais de la salle, du public dans la salle, chaque expérience, elle est unique et singulière. C'est ça qui me permet de continuer à jouer cette pièce avec la fraîcheur de la première. Mais on se rend compte qu'à la fin, c'est un groupe, c'est un collectif qui a été formé à travers le texte. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que on cherche toujours au théâtre, je pense que François Bergouin le partagerait avec moi, comme tous les artistes en Corse, au Portugal, dans le monde, on cherche quand même de changer un petit quelque chose dans le monde. Et la chose que je sais que chaque soirée, même dans les mauvaises représentations, ça serait pas le cas aujourd'hui parce que j'ai déjà répété, ça ira. Mais dans les mauvaises représentations, même celle-là, je sais qu'à la fin, il y a 10 personnes qui savent quelque chose qu'ils savaient pas encore, ils le savent par cœur, c'est à leur antérieur, et là, t'as changé un petit quelque chose dans le monde. Et avec l'apprentissage par cœur, qui est un peu, si on fait une analogie gastronomique, c'est comme voilà, l'archive digitale, c'est un peu la nourriture processée industrielle, et l'apprentissage par cœur, c'est un bon saucisson corse.
D'ailleurs, lorsque vous alliez visiter votre grand-mère au village, outre les livres, très important, vous lui apportiez toujours de quoi manger, de l'huile d'olive, des oranges. C'est un partage, en réalité, la littérature. Ça n'est pas un acte intellectuel.
Ah oui, on se nourrit des livres et bien sûr du saucisson, du vin, de l'huile d'olive, des oranges, des amandes. Dans la pièce, je parle pas mal de ça, de comment la littérature, les mots, la lecture, la transmission d'histoire. Parfois, c'est pas sur le contexte, dans le contexte de la littérature qui sonne un peu solennel. C'est juste raconter des histoires. Mais c'est ça, la littérature, elle est un exercice de récit. Les histoires et la nourriture, pour moi, elles sont très liées. Et c'est les choses, je sais jamais quelle chose me nourrit le plus, parce que normalement je les mange en même temps, les histoires et les saucissons et du vin. Mais c'est, il y a un plaisir, il y a une joie. Au Portugal, on a un mot qui est même dans la constitution, parce qu'il y avait une poète qui célèbre son centenaire cette année-là, Sofia, qui a aidé à écrire la constitution juste après la révolution en 74, et elle, pour la culture et la création, elle a écrit le peuple a le droit à fruir, ça jouir, c'est quelque chose qui est de consommation, fruição. Pour les Portugais, il y a pas mal de Portugais en Corse, fruição. C'est le mélange de consommer, de avaler, mais avec du plaisir. Et quand on parle dans la constitution de culture et art au Portugal, dans la constitution, il faut fruir. Et fruir, ça veut dire avec joie, manger avec joie de l'art et de la culture.
Tiago Rodriguez, ce soir sur la scène de la Fabrique de Théâtre et demain à 21h pour By Heart. Ne manquez pas cet événement.
Comment t'ignorer, comment t'effacer, ne
peux plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Qui a dit que l'amour était un jeu à deux? Si ton homme est jaloux, qu'il évolue un peu. Je ne brise pas les ménages, j'électrise les ménages. Chercher l'état sauvage ne serait pas si dingue. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi. Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Peut-être pas encore prête, je n'ai rien demandé que le feu de la fête. Es-tu si heureuse que tu veux le faire croire? Je t'ai connue fiévreuse, tu n'as plus peur du noir. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi. Sont à lui, les nuits sont à moi. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Comment t'oublier, comment t'effacer, comment te maudire, comment me tenir quand tu es dans ses bras.
Ouais, comment t'effacer. Thiago Rodriguez est notre invité jusqu'à 18h dans Toc Toc. Il sera sur la scène de la Fabrique de Théâtre ce soir et demain à 21h pour présenter By Heart. 230 représentations à travers le monde. Nous avons la chance de la voir à Bastia. Et vraiment, il faut vous hâter, notamment pour demain, tiens, par exemple, fin de semaine, tranquille, on ne travaille pas le lendemain, certains. Eh ben, allez-y, appelez la Fabrique de Théâtre et réservez votre place. Et peut-être, si vous le désirez, vous montrez sur scène, si vraiment vous le désirez seulement. Thiago, on parlait de la mémoire enfantine. Vous disiez, chacun d'entre nous a certainement accompagné une personne âgée qui commençait à perdre la mémoire, et on se rend compte souvent que ce qu'il reste, eh bien, c'est cette mémoire de l'enfance. On va accueillir Cécilia Canté. Dis bonsoir, Cécilia.
Bonsoir à tous.
Vous êtes allée dans la rue?
Tout à fait. Je suis allée dans la rue en reprenant l'expression que Mickaël a pris tout à l'heure, qui est également très présente dans votre spectacle, évidemment, par cœur. Connaître quelque chose par cœur. Alors Mickaël, il a pris plutôt l'approche un petit peu scolaire, comme ça, qui peut faire peur. Moi, je trouve que c'est une expression très poétique. Et j'ai voulu savoir...
Elle vous tacle, hein?
Non, c'est pas contre Mickaël. Je me permettrai pas, quand même. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'entends par cœur, je pense pas forcément à l'école. Mais bon, c'est peut-être le vécu aussi qui est différent. Je ne sais pas. Et du coup, j'ai voulu aller dans la rue demander aux gens qu'est-ce qu'ils connaissaient par cœur, justement. Alors, c'est très, très varié. Ça va du numéro de téléphone.
Dévoiler rien.
Mais c'est quand même assez joli pour la plupart, comme cette dame qui s'est remémorée un extrait de poème.
Oula, je ne sais pas, j'ai peut-être des petits débris, mais c'est tout. Oui. Hein. Une récitation, je ne sais pas. Moi, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends.
Une date d'anniversaire, bien sûr. Une date d'anniversaire. 26-10-79 de mon fils.
Une chanson. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs.
Mon nom, déjà. Le nom de ma petite fille. Oui. Date de naissance, je me rappelle bien, mais je ne peux pas vous les dire, non.
Ils ont bien tourné. Oui, ça, on le regarde souvent et on sait qu'on n'a pas besoin de l'oublier, de le noter, puisque voilà, c'est tous les soirs.
Numéro de téléphone, 06 19 25 66 23, c'est moi.
Par cœur non plus maintenant. Il fut un temps, on apprenait par cœur. Non, aucun reste.
Oui, mes codes d'identifiant de carte bleue, de boîte mail. quelque chose par cœur, un poème, mais je le connais pas par cœur. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Je sais que tu m'attends, j'irai par les collines, non ?
Vous l'avez appris quand ?
Bon, je devais être en primaire, je pense.
Alors, c'est JCVD de Jules, et c'est ça veut le port d'armes et les gros bras Jean-Claude Van Damme.
Le nom de mon fils, voilà, oui. Clément.
Sorti de mon année de naissance et de ces choses-là, non, pas vraiment. J'ai pas de poèmes qui me reviennent comme tous ces artistes-là qui arrivent à sortir des grandes phrases, des comptines, il y en a quand même. J'ai des enfants et à un moment donné, on est bien obligé de se les rappeler. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.
Mais c'est très tendre ce que l'on recueille dans la rue. Mis à part Jules, peut-être, et le rap, mais pourquoi pas, mais
on va retenir Victor Hugo et pas Jules.
C'est exactement ce que vous disiez. Lorsqu'on prend les gens comme ça, brûle pour point dans la rue, bah, qu'est-ce qui leur vient en tête ? Bon, leur code, ça, bien sûr. Et puis, les comptines de l'enfance ou les poèmes qu'ils ont appris à l'école.
Oui, je pense que le plus de temps on se donne pour se rappeler, le plus profond sera la mémoire qu'on a par cœur. Les codes bancaires, bien sûr, parce qu'on on doit quand même les savoir un peu si on veut passer les jours avec moins de soucis, ou alors avec plein de soucis si on sait les codes bancaires. Ça peut aussi être le cas. Mais je pense quand on se donne le temps, quand on a besoin en fait de se rappeler, il y a des choses qui émergent, qui sont là. Moi, je me rends toujours compte que par exemple, j'ai commencé à travailler en théâtre avec, une compagnie qui vous visite pas mal aussi,
à Bastia,
à la fabrique, qui sont les Tégestan, qui m'ont beaucoup parlé de la Corse, de Bastia, de la fabrique, qui ont créé ce fantasme-là, de désir de venir finalement à Bastia, et avec les Tégestan, j'ai commencé à faire du théâtre. Et ils sont des proches, vraiment des proches. Et soudain, l'autre jour, on se disait, on a fait Antigone, la version de Jean Cocteau et la version de Jean Lanouille, mises ensemble, l'une après l'autre, en 2001. C'était la première fois que j'ai joué en français de ma vie au Théâtre Garonne, à Toulouse. Et là, en fait, tout ça commence avec un mensonge, c'est que les Tégestan qui allaient à Toulouse au Théâtre Garonne à l'invitation de Jackie Wayon,
qu'on salue et qu'on connaît bien.
Oui, voilà, un grand ami.
Une programmation remarquable.
Un grand ami, un complice fort en France de mon travail, mais qui m'a découvert avec les Tégestan à cette époque-là, 2001, il y a 17 ans. Et là, j'avais accepté de faire cette pièce en français, même si je parlais pas le français. En 2001, je disais ça va, merci, et voilà, c'est tout. Mais ils m'ont invité en anglais en disant Do you speak good French? Et j'ai répondu ça va. Après, je me suis inscrit à l'Alliance française pendant 6 mois. J'ai bossé comme un fou. Je suis arrivé à Toulouse et j'ai commencé à répéter en français avec eux. L'autre jour, je pensais, on disait, ça serait bien de faire Antigone encore une fois, 17 ans après, etc. Et le moment que je lui ai dit, le texte de la pièce a commencé à émerger parce que je voyais Frank Verkreusen, un des acteurs, c'est en fou. Face de moi. Et la scène que je disais est émergée et j'ai commencé à dire, Prince, je ne peux pas dire que je vole vers toi, sinon je me suis souvent arrêté en route, n'y va pas, d'autre part, si Créon se renseigne ailleurs, tu risques davantage, bref, je n'ai rien de bon à t'apprendre. Qui est le début de la pièce pour moi, les premiers mots que j'ai dit, et c'est aussi mes mots de première en français. C'est les premiers mots que j'ai joués en français de ma vie sur scène, et soudainement, ils étaient là. Et je pense que c'est à cause de ça, ce contexte émotionnel. On pense que c'est pas là, on pense que ce poème d'enfance, il est plus là. Et si on se donne le temps, si on est dans le contexte de la mémoire, si on a l'urgence, mais aussi le désir de se rappeler, il y a les choses, des capsules de temps, des capsules d'émotions, aussi d'intelligence, d'art, qui sont gardées en nous, qui émergent soudainement. Et voilà, Prince, je ne peux pas dire que je vole vers toi.
Vous dites que sans eux, vous auriez peut-être arrêté le théâtre.
Oui, j'étais étudiant de première année du conservatoire de théâtre à Lisbonne, vraiment malheureux. à l'école, et l'école très malheureuse avec moi. Et j'avais le conseil de la plupart de mes professeurs de théâtre de me dire, voilà, t'es quand même un garçon intelligent, tu peux faire sociologie, histoire, sûrement que ça ira pour toi, mais le théâtre, voilà, c'est pas pour toi. Et là, l'été, j'ai dû décider de continuer mes études en théâtre ou partir et étudier quelque chose d'autre ou juste travailler et quitter mes études. Et j'ai décidé de faire plusieurs ateliers pour voir s'il y avait quelque chose dans le théâtre qui pouvait vraiment me...
Si vraiment c'était fichu ou pas, oui.
Oui, si je pourrais être heureux en faisant du théâtre. Et j'ai fait un atelier avec Tejestan qui était pour la première fois au Portugal en présentant plusieurs pièces. Et à la fin de l'atelier, je me suis dit, ouais, je m'en fiche si le théâtre est heureux avec moi. Mais moi, je peux être heureux à faire du théâtre. Et quelques mois après, ils m'ont invité à faire une pièce avec eux. Alors, c'était un peu l'histoire du garçon du village qui s'enfuit avec le cirque qui est passé. Je me suis enfoui avec les Belges et je suis parti à Anvers pour travailler avec eux. J'ai pas fini mes études en théâtre, mais finalement, ouais, maintenant c'est ma vie, le théâtre.
La naissance de la pièce By Heart, vous l'avez raconté en début d'émission, on va la rappeler à nos auditeurs. Donc c'est votre grand-mère qui était en train de perdre la vue et qui vous sollicite en vous demandant de lui trouver un livre qu'elle pourrait apprendre par cœur pour avoir donc ce texte et se le raconter à nouveau lorsqu'elle aurait perdu la vue. Vous avez, en pleine quête du livre, pour choisir ce livre pour votre grand-mère, écrit, envoyé une lettre à George Steiner et vous n'avez pas eu de réponse.
Non, j'ai pas eu de réponse, mais voilà, dans l'œuvre de George Steiner, professeur de littérature, un des grands maîtres de la pensée, de la littérature, j'ai trouvé une possible réponse. Alors j'écrivais, c'est comme écrire à quelqu'un que t'admires beaucoup. Et tu te connais tellement que tu peux t'imaginer sa réponse. Et c'est ça ce que j'ai fait en lisant ses livres, en voyant ses interviews. Je me suis imaginé quelle réponse il me donnerait. Et j'ai créé la pièce tout de même et j'ai choisi le livre pour ma grand-mère, même si dans la lettre, je lui demandais, professeur George Steiner, je veux votre conseil, quel dernier livre pour ma grand-mère ? Curieusement, parce que j'ai commencé à faire la pièce en français un an plus tard, alors en novembre 14, je jouais déjà la pièce un peu en portugais, mais je l'ai jouée à Paris pour la première fois. Et il y avait Laura Adler, journaliste, qui est venue voir la pièce. Et à la fin, Laura Adler me dit, il faut que tu rencontres George Steiner. Je viens de l'appeler. En fait, j'étais un peu troublé parce que Laura Adler, je l'admire beaucoup. Je la connaissais pas, mais je la voyais dans le premier rang. Il m'avait prévenu, il y a Laura Adler qui est là. Laure, elle est quand même une femme, voilà, qui, c'est un peu comme Boris Pasternak. Si elle est dans la salle, tu vas la voir. Et elle est partie pendant les applaudissements sans applaudir. Et je me suis dit, ouais, quand même, Laura Adler, je m'en fous. Mais finalement, elle était au foyer, très délicat, très sympa, en me disant, je suis désolé, mais j'ai dû appeler George Steiner immédiatement. Il n'a pas reçu les lettres. Et là, j'étais, waouh, là, ça me soulage un peu.
En fait, il n'avait jamais reçu le courrier, c'est ça la réalité.
Il a jamais reçu le courrier, mais finalement, Laura Adler me dit, on va rencontrer George Steiner. Et on se dit, 26 novembre, elle m'a donné l'adresse de George Steiner à Cambridge. Et 26 novembre, on est là à 10h du matin, j'arrive. Et ça, c'est comme 9 mois après, j'arrive le 26 novembre. Et je me suis dit, c'est romantique que j'appelle pas Laura Adler, je l'écris pas. J'arrive juste à 10h, 26 novembre, en face de la maison de George Steiner à Cambridge, que je reconnaissais des documentaires. Et voilà, il n'y a pas de Laura Adler, il pleut. Et moi, je me suis dit, comme t'es bête, t'aurais dû... Comme t'es trop bête et trop romantique, t'aurais dû appeler Laura Adler. Mais je suis là, et à 10h30, je suis complètement mouillé, pas de Laura Adler, et la porte s'ouvre. Et George Steiner, tout petit, me regarde, il me fait signe pour m'approcher de la maison. Je m'approche, tout mouillé, il me dit, vous êtes Thiago Rodriguez? Voilà, Laura Adler, elle m'a appelé. Il y a du brouillard à Paris, elle est un peu en retard, mais elle viendra. Et je lui ai demandé, mais comment je vais reconnaître ce garçon en face de ma maison? Il doit être là à 10h, mais il y a plein de monde dans la rue. Et Laura Adler m'a dit que Thiago, il rassemble un Portugais et il paraît intelligent. Et je vous regardais, à partir de 10h et il pleuvait, voilà, et vous me paraissez un peu portugais, mais sous la pluie, sans bouger, sans parapluie, pas vraiment intelligent. Et voilà, c'est mon première rencontre avec Georg Steiner. Après, on s'a parlé beaucoup.
Et c'est une belle histoire qui grâce à Laura Adler, qui fait un travail et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Vous n'êtes pas le seul à l'admirer. Qu'est-ce que j'aimerais la voir ici à mon micro. Donc quand vous sortez, vous appelez Laura Adler pour qu'elle vienne faire une interview ici.
Voilà, et on, à Bastia. Et on va caler un rendez-vous et on va plus jamais se parler et on se rencontrera à Bastia 26 novembre à 10h.
C'est ça. On continue l'histoire et la mémoire.
Ou en face de la fabrique de théâtre.
Très formidable.
Où je me sens vraiment extrêmement bien. Je suis vraiment excité de partager ce spectacle avec le public ce soir.
Thiago Rodriguez, ce soir et demain à la Fabrique de Théâtre avec By Heart. Ne manquez pas cet événement et ce spectacle. Bonsoir Marc-André Castellani.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Soyez le bienvenu.
Ah ben c'est très gentil à vous.
Vous allez nous faire jouer.
Alors, comme
si on le désire, hein, c'est comme chez vous, hein, Thiago.
Comme il est de coutume dans cette émission, nous allons soumettre nos invités et puis nos invitants à un petit blind test pour tester un petit peu les capacités musicales. C'est court et c'est un petit jeu ludique. En quelques manches...
Où je perds, hein, tous les soirs. Tous les soirs, c'est moi qui perds.
Ok.
Donc, on va voir un peu ce que ça donne et puis après, on aura l'occasion d'échanger aussi quelques mots.
Donc, le principe, évidemment. Vous jouez une introduction à la guitare et nous tentons de découvrir le morceau.
Tout simplement. On y va ?
Allez, c'est parti.
Alors, écoutez bien. Alors ça, c'est un morceau assez connu. C'est un morceau de... Non, je rigole. Concentrez-vous. Vous l'avez entendu automatiquement dans plein de films, mais de la retapisser.
Bon, déjà, ne la laisse pas tomber à pomper l'intro, déjà.
Oui, j'allais
tout le
dire.
Monde a pompé l'intro. Aïe, oh. Gocha.
Mika.
Je sèche.
Thiago.
Ouais, je dirais toujours, si je sais pas, je dis Amalia.
Pour c'est Amalia, pas Amalia Rodriguez.
C'est pas Amalia Rodriguez. Hein.
I am a passenger.
Ah oui, bien sûr. Mon ennemi.
Ah, oui. Ah voilà, c'est ça. Je reconnaissais, mais voilà. Ouais.
Moi, je le savais, mais je ne voulais pas le dire.
Là, pour le coup, un peu quand même.
Moi, je ne le savais pas, mais je voulais pas le dire. Un peu.
Aurais-je quelques petits soucis de mémoire ? Je vous en prie, poursuivez.
Un autre morceau, un peu plus world music.
Oh, facile, Cesaria Evora.
Ah oui.
Non ?
Non.
Oui. Non, c'est pas ça ? Chan-chan, compay segundo.
Oui.
Merci.
Ah, ça.
Buena Vista Social Club.
Buena Vista Social Club, la nullité de la compay, fille. Ouais.
Merci, Mika.
Dis-nous.
Au castag et tout chisi.
Oh, ça va.
Bon, alors, on va faire encore plus facile. Alors là, la vitesse.
Du coup, vous vraiment. Ne me regardez même plus.
Non,
hein.
On garde au bio, que je ne peux plus.
Je sens un dédain, mais alors.
Là, il y a quelque chose qui vient de se casser.
Est-ce qu'il y a normalement les gens ils arrivent
à trouver la vie qu'elle a trouvé.
Ça arrive.
Non,
ouais. Parfois ça arrive.
Arrêtez, soyez sympathique avec Marc-André.
Non,
peut-être que Marc-André à Castellane il joue d'une certaine manière qui fait qu'on ne trouve pas.
Non, mais c'est très bien joué. C'est juste. Ouais, c'est difficile, c'est quand même difficile.
C'est très difficile un blind test parce que d'abord on a peur.
Il faut retapisser, c'est surtout ça.
Et puis on a peur pour notre ego de ne pas savoir. Donc ça nous tétanise et du coup on a du mal à retrouver les
évidences.
Je suis
sûr que la prochaine c'est Amalia Rodriguez.
Allez, c'est pour vous la prochaine.
C'est Django Reinhardt.
Alors. C'est une réponse qui est tout à fait intéressante.
Ouais.
C'est Django qui l'a les fait connaître. C'est les yeux noirs.
Noirs.
Très bien.
Ouais.
C'est d'ailleurs un morceau traditionnel, traditionnel zigane, il me semble, qui a été repris et donc rendu très très célèbre après par ses fantastiques.
À moitié juste, Django Reinhardt.
Non, c'est pas à moitié.
Non, c'est juste, c'est un point.
Franchement, il y a le point, il n'y a rien à dire.
Bon,
allez, on y va. Un dernier titre. Alors celui-là, il a une histoire un peu compliquée. On aura peut-être l'occasion d'en parler après.
Ouais, c'est
le partisan,
ça. Partigiano.
Voilà. Alors, in corso, soy chiama dialesi e o partigiano. Maintenant, tout à l'heure, on abordait, Marie me parlait de cette histoire de ce fameux sonnet de Shakespeare.
Ouais.
qui a donné à ces gens l'idée de l'importance d'apprendre les choses par cœur pour pouvoir peut-être d'une certaine manière aussi avoir une mémoire, un disque dur dans la tronche qui permet de protéger de peut-être certains lavages de cerveau, par exemple. En l'occurrence, cette histoire au Bartijan, à la base, c'est un traditionnel russe. Un traditionnel russe qui est écrit au début du 19e siècle. Le chant devient ensuite un chant qui est repris par les armées du tsar pendant la guerre de 14. En 17, il y a la révolution qui éclate. Le chant est repris pendant, on dira, le combouille de toute la révolution par les deux parties, côté russe, donc côté soviétique, on le peint en rouge, côté communiste, et on le chante aussi de l'autre côté en changeant les paroles, dans les deux sens. Au final, c'est l'armée rouge qui gagne et ça devient un standard immense de l'URSS qui est repris ensuite en Amérique latine par l'Equila Payoun. Les groupes corses des années 70 entendent l'Equila Payoun, le reprennent en Corse. Donc vous voyez, et d'où l'importance, si en amont on l'aurait appris par cœur, on se serait peut-être rendu compte de certaines choses. Voilà, je trouve que c'est une anecdote qui rentre bien avec ce que peut-être génial, vous essayez génial, d'exposer. Voilà.
Mais oui, d'où l'importance de la mémoire et de connaître son histoire et l'histoire en général. Parce que du coup, ça mélange pas mal. Quand on pense que les deux parties adverses chantaient donc le même chant
avec des paroles
différentes.
D'un côté, on chantait les vertus de Staline et de l'autre côté de Denekine,
oui,
qui était le leader. En bref, voilà.
Merci beaucoup, Marc-André Acacellani.
Merci à vous.
Et
le point, il est à qui ?
À Mika. Non, à moi, non. C'est moi qui l'ai dit en premier. Comment non ? Michael.
Il est à vous, c'est ça que je voulais dire.
Ah oui, voilà, je vous en prie. Je vous en prie.
Super play.
Merci, Michael. Alors, mais vous êtes quand même le grand gagnant de ce soir.
Il n'y a que des vainqueurs, excepte moi, c'est ça ?
C'est ça.
C'est l'hospitalité corse.
C'est comme ça, on aime bien écraser nos invités.
Merci.
Pour pas
merci.
Qu'ils se sentent vraiment trop à l'aise. C'est voilà. Important.
Merci. C'était quand même très très beau de perdre en vous entendant.
Oh merci, c'est très gentil, je suis très touché.
Thiago Rodriguez, ce soir, donc, nous viendrons vous applaudir avec By Heart. Juste un mot avant de se quitter sur la direction du Théâtre National de Lisbonne. Comment vous gérez ça avec les tournées et tout le reste? Quelle est pour vous l'importance de cette direction?
Ah, c'est une immense aventure de pouvoir, c'est un peu comme on a appris à propos du chant des partisans, de pouvoir donner d'autres mots à une chanson que dans ce cas-là, c'est un grand monument.
Un théâtre mythique.
Voilà, un théâtre fondé en 1846, le grand théâtre national de notre pays. Et le défi, c'est un peu ça, comment chanter la même chanson, mais en changeant les mots, en changeant le répertoire, en ouvrant ce monument un peu trop solennel, trop ostentatoire aux gens, en travaillant beaucoup sur la question des premières fois, comment faire venir les gens pour la première fois au théâtre, en travaillant avec l'éducation, ah oui, la nouvelle écriture. Alors c'est vraiment une grande aventure de plus de 40 spectacles différents par année, des centaines de milliers de gens. Et quand vous me demandez comment vous gérez, moi je viens du théâtre indépendant. Moi je viens d'avoir une petite compagnie à Troyes qui faisait avec, qui tournait beaucoup à l'international, mais qu'à un moment donné a passé de 3 personnes à 100 personnes.
Ouais, oui.
Alors quand je discute par exemple avec François Bergouin et la Fabrique Théâtre, l'Alibi, comment ça se passe, je reconnais très bien... Je reconnaîtrais bien les désirs, les urgences, mais aussi les obstacles, et d'être d'une façon éphémère, mais d'être pendant quelques années à la tête d'un théâtre national dans un pays où il y a tellement à faire encore pour la culture et l'art, et la société en général, c'est un privilège et en même temps c'est un grand plaisir. Et je me plains jamais de la question comment tu gères avec la création et programmer un grand théâtre comme ça. Allez, avant je passais 80% du temps à chercher de l'argent pour faire les pièces. Maintenant je passe 80% du temps à partager de l'argent avec d'autres artistes et le public et des agents culturels, et c'est le même 20% pour les pièces.
Donc ne nous plaignons pas.
Non, pas dans ce... Voilà. Je me plains au nom des autres maintenant, mais pas au nom propre. Je suis combatif plutôt pour le théâtre portugais, les conditions des artistes, mais pas au nom propre. Là, j'ai le grand plaisir de pouvoir travailler dans ce théâtre, mais aussi voyager dans le pays beaucoup, dans les grandes villes, mais aussi les petits villages et dans le monde, et par exemple d'entendre, de perdre chez
ce
vous
jeu chez nous.
Ce jeu chez vous, ça sera, ça, c'est le, j'espère que ça sera pas le, le moment le plus heureux de ma journée parce que j'ai encore un spectacle à faire, mais jusqu'ici c'était un des moments spéciaux de mon premier jour à Bastia. Ouais.
Thiago Rodriguez donc ce soir avec By Heart à la Fabrique de Théâtre, et demain c'est à 21h, réservez vos places, merci infiniment d'avoir merci. Accepté cette invitation. Vous êtes ici chez vous et entre de bonnes mains grâce à Catherine Gradiani et à François Bergoin, et ce pour longtemps. J'espère que vous reviendrez nous voir à Bastia maintenant que le premier pas est fait. Thiago, merci à Marc-Andrea Castellani, à Michael Andréani, à Cécilia Cantelli, également pour sa voix que vous avez entendue en tout début d'émission. Oui. Ainsi qu'en anglais.
Une piètre performance comparée.
Non, c'était très bien. Ainsi que la voix de Clément et Jérôme, le petit adolescent que vous avez entendu, et la voix du comédien Cédric Apieto qui nous a fait ce plaisir également. Et puis la voix, évidemment, de Thiago Rodriguez.
Strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. So I'll close my eyes, look behind.